France Culture, les matins d'été.
Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. De toutes les phrases célèbres de Pascal, celle-ci n'est pas la moins réconfortante, peut-être pas la moins détournée non plus, mais elle est précisément un bon exemple de ce que vous nous aidez à lire, à comprendre, à penser. Antoine Compagnon, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Après Montaigne, après Baudelaire, vous nous proposez donc Un été avec Pascal en coédition Les Équateurs France Inter, puisque ce livre est le prolongement de vos chroniques diffusées chez nos voisins l'année dernière. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez choisi Pascal, parce que vous l'écrivez dès l'introduction. Après Montaigne, comment ne pas en venir un jour à celui qui fut son meilleur lecteur? En revanche, j'aimerais vous demander pourquoi lire Pascal?
Pourquoi lire Pascal aujourd'hui? Oui. Je crois qu'on a beaucoup parlé de Pascal dans la période du confinement, parce que nous avions perdu beaucoup de nos divertissements. Alors, Pascal donne un sens très particulier à divertissement. C'est pas le loisir, c'est pas les plaisirs. Le divertissement, c'est ce qui nous détourne de l'essentiel, de la recherche de la vérité. Et Pascal nous dit que nous sommes incapables de survivre sans divertissement, puisque nous trouvons confrontés à ce qu'il appelle notre misère. Et je crois qu'on a beaucoup répété cette phrase de Pascal sur la difficulté que nous avons à nous retrouver seuls dans notre chambre, sans moyen d'échapper à sa méditation sur son sort, sur sa misère, comme il dit, et sur notre vanité. Donc oui, il y a une importance, je crois, à lire Pascal aujourd'hui, parce que cela nous ramène à des réflexions essentielles. Pascal est un homme extraordinaire. Hein. Il est à la fois l'un des grands savants du XVIIe siècle, à la fois mathématicien, physicien, inventeur des probabilités. Puis c'est aussi...
Entrepreneur même.
Entrepreneur. Hein. Et c'est un homme qui a inventé le premier système de transport public à Paris. Hein. Et c'était un bon investissement. Hein. Il a laissé en héritage à ses sœurs, à sa sœur et à ses neveux et nièces un peu de capital grâce à cette entreprise. Et puis c'était aussi un philosophe, un théologien et un très grand écrivain. La langue de Pascal, c'est l'une des plus belles de la langue française.
Il est l'auteur le plus complet de la littérature française, dites-vous.
Comme on pouvait l'être au XVIIe siècle. Évidemment, aujourd'hui, il est peu concevable d'être à la fois... il était physicien à la fois expérimental et théoricien. Aujourd'hui, il y a une très grande séparation, puis il était en même temps homme de lettres et homme de science. Alors, je sais bien qu'on exagère beaucoup, souvent, l'hiatus entre les deux cultures, scientifique et littéraire, mais tout de même, il est difficile de se produire avec le même génie dans tous les domaines, aujourd'hui.
Dans l'introduction de votre livre, vous rappelez votre fidélité à Pascal, qui remonte à loin. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec lui, avec ses écrits?
Ma rencontre, elle est scolaire. Comme tous les petits Français, j'ai lu Pascal dans le secondaire. On lisait des éléments, enfin des pages des provinciales, hein. Non seulement les pensées, parce que le début des pensées, cette anthropologie de la condition humaine, cette description de la vanité et de la misère, fait partie des pages qui, depuis le romantisme, depuis Chateaubriand, sont lues jusqu'à Valéry, c'est lu par tous les Français. On lit beaucoup moins la partie théologique, et puis on lit les provincial, parce que c'est un magnifique exemple d'écriture pamphlétaire. Pascal est aussi un des champions du pamphlet. Et dans une période qui était... Enfin, c'est les pamphlets contre les jésuites. Hein. N'oublions pas, on n'a pas encore mentionné que Pascal, c'est Port-Royal.
Bien sûr.
Donc, c'est vraiment lié à un moment crucial de l'histoire de France, et c'est un moment qui dure très longtemps, puisque Port-Royal se prolonge jusqu'au milieu du 19e siècle, au moins. Donc Pascal reste un enjeu dans les questions religieuses, bon, on peut dire aussi aujourd'hui, pour tous ceux qui sont croyants, Pascal pose le problème de la grâce, de la nature de la grâce, qui est l'un des problèmes les plus difficiles pour ceux qui croient en Dieu.
Mais est-ce que dès le début, dès ces lectures scolaires, est-ce que tout de suite ça vous a parlé, attiré, ou est-ce que justement vous y avez pris goût en vous penchant, en venant, revenant sur le texte, en essayant de le comprendre, de le décortiquer?
Écoutez, j'ai beaucoup enseigné Pascal comme professeur au fur et à mesure des années en France, aux États-Unis, et toujours c'est un peu un défi aujourd'hui de faire comprendre Pascal à des étudiants, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est un défi de les intéresser à des problèmes comme celui que je viens de décrire, celui de la grâce et celui de la nature. C'est un défi de les intéresser à la question de l'augustinisme de Pascal, hein, tout ce qui a trait à ces questions qui sont fondamentales pour la culture occidentale. Donc j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à l'enseigner, puis c'est essayer de comprendre cette nature du sublime de la foi de Pascal. Le cœur a ses raisons, voilà. La raison ne connaît point. Toutes ces phrases qui sont bien inscrites dans la mémoire, je l'espère, encore, de tous les Français et les Françaises.
Oui, et justement, Antoine Compagnon, il y a effectivement toutes ces phrases que l'on connaît tous, et en même temps, après vous avoir lu, on a un peu peur de les isoler, ces citations, ces phrases, on a un peu peur de les malmener, parce que ce que vous écrivez, ce que vous montrez très bien, c'est que Pascal aime et pratique le paradoxe, la contradiction. Par exemple, à propos de cette phrase que je citais au début, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé », vous écrivez une fois de plus, la formulation est paradoxale et même circulaire. Alors justement, aidez-nous peut-être avec cet exemple-là à lire cette phrase.
Mais d'abord, il faut pas avoir peur de malmener les phrases de Pascal.
On peut, vous nous autorisez.
Toute lecture repose d'abord sur des violences que l'on fait au texte. On les adapte à nous-mêmes. On ne cesse de mal lire.
Et c'est bien
lire.
Comme ça.
Et c'est très bien. C'est comme ça que commence la lecture. Et puis peu à peu, on s'y intéresse de manière un peu plus historique. C'est ce qu'on appelle justement. C'est ça la phrase « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». Elle décrit la circularité de la recherche. On part toujours de malentendu. Moi, je l'entends, je la déforme cette phrase, je la malmène, puisque je dis que je la citais souvent à mes étudiants. Alors, c'est pas la quête de Dieu, c'est pas la quête de la vérité surnaturelle, mais pour moi, c'est une phrase qui décrit très bien cette circularité de la recherche. Il faut avoir une intuition. Et à partir de cette intuition, commencer un processus qui peut être très long, qui est celui du déchiffrement, qui est celui de la compréhension. C'est ce que bien plus tard, les philosophes appelleront la circularité de l'interprétation. Pour Pascal, c'est une question de grâce. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette petite élément, ce petit embryon de grâce donnée par Dieu, eh bien, l'homme ne chercherait pas Dieu. Mais ensuite, c'est un processus qui s'enclenche et qui dit aussi que la recherche n'est jamais terminée, que ce soit la recherche de Dieu, pour ceux qui y croient, ou la recherche du sens de la vie,
ou du bonheur,
pour nous tous, ou que ce soit la recherche scientifique ou littéraire, pour le chercheur qui travaille dans un laboratoire ou dans une bibliothèque. C'est le mouvement infini de la recherche que décrit Pascal, et je crois que personne ne l'a mieux décrit qu'il ne l'a fait.
Alors, autre exemple, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Vous écrivez, voilà l'un des fragments les plus emblématiques des pensées, avec cette première personne que nous, modernes, prenons pour une angoisse existentielle intime, et vous expliquez que cette phrase a participé à construire cette vision d'un Pascal nerveux, névrosé, maniaco-dépressif, alors que vous nous dites qu'il y a aussi, chez Pascal, de l'entrain, du jeu, de la facétie.
Alors, cette phrase, elle vise à faire peur. Elle vise à faire peur l'interlocuteur de Pascal, le destinataire des pensées, qui est le libertin, celui qui n'y croit pas. Donc, il faut lui faire peur et lui montrer que sa condition est effrayante. Mais alors, aujourd'hui, en effet, on a interprété, depuis le 19e siècle, cette phrase, je faisais allusion au romantisme, on peut penser à l'existentialisme, c'est la phrase qui emblématise l'angoisse existentielle. Alors, on est très loin de Pascal, mais on peut dire que un croyant ne croit jamais une fois pour toutes. Il est pris d'angoisse comme les autres. C'est ce qu'on appelait le démon de midi, l'assédie des moines qui, dans l'après-midi, sont pris par l'angoisse à l'heure de la sieste. Donc, tout croyant connaît aussi l'angoisse. Donc, on ne peut pas non plus exclure que cette première personne, après tout, ce soit aussi une première personne subjective. Bon, il est certain que c'est un élément de la démonstration de Pascal, et c'est un élément donc qui appartient à une certaine rhétorique adressée à un interlocuteur, le libertin, celui qui exerce sa libre pensée. Mais cette libre pensée, ben justement, il faut qu'elle ait une limite. Et cette limite, pour Pascal, c'est la foi.
Et il n'empêche donc que vous nous montrez bien aussi dans ce livre que Pascal est tout cela, mais qu'il n'est pas que austère et
alors Pascal est quelqu'un qui, me semble-t-il, avait aussi un élément, je dis, de potache. Beaucoup de mathématiciens, et Pascal jouait avec les pseudonymes. Il a pris beaucoup de pseudonymes qui sont construits sur des anagrammes, enfin, sur d'autres jeux avec les mots. Pascal a pris plaisir à écrire ses pamphlets, à détruire les jésuites. C'était un plaisir coupable. C'était un plaisir, d'ailleurs, que le milieu de Port-Royal réprouvait. Et, au fond, c'était un plaisir de vanité. Et c'était un plaisir de jeu. Donc, il fallait se débarrasser de ce type de plaisir. Pascal était certainement un homme austère. On ne lui connaît pas beaucoup de passion dans la vie sentimentale, par exemple, sinon pour sa sœur Jacqueline. Oui. Mais c'était un homme qui avait des amis, justement ses amis libertins. Et ce milieu des amis libertins, ce qu'il recherchait, c'était le bonheur pour tout le monde. Donc n'oublions pas cette dimension d'un Pascal à la fois altruiste, cherchant le bonheur de ses proches, comme le faisaient les honnêtes gens, qui étaient les libertins. Et bien entendu, tout cela fait partie, certainement, de ce qu'il appelle le divertissement. Mais le divertissement, c'est notre condition. Que serions-nous si nous étions toujours enfermés dans nos chambres à ruminer la misère de notre condition ? Il faut aussi se divertir. Et assurément, Pascal l'a fait. On dit qu'il a eu une période mondaine. Oui. Bon, cette période mondaine, elle s'est poursuivie jusqu'au bout.
Vous nous avez dit, Antoine Compagnon, que Pascal donc était une bonne lecture dans la période que nous vivons. Pendant le confinement, dans une interview au Journal du Dimanche, je crois, vous disiez « le remède contre tout mal, c'est le récit ». Précisément, en ce moment, n'est-il pas très compliqué de faire le récit de ce que nous vivons ? Même les mots, nous ne les avons pas vraiment pour décrire cette période. On dit crise et crise au pluriel. Mais comment nommer, vers où chercher pour nommer, faire un récit de ce que nous vivons en ce moment ? Est-ce seulement possible ?
Ben écoutez, il y a des récits d'épidémies, de pandémies. Il y a beaucoup de littérature de ces moments qui parfois ont duré très longtemps. Je crois que beaucoup de gens ont lu durant le confinement et la peste et le hussard sur le toit de Giono. Il y a toute une littérature qui est présente. Alors maintenant, nous allons ces jours-ci de catastrophe en catastrophe, puisque vous évoquiez juste avant mon entrée la catastrophe de Beyrouth d'hier. Donc nous sommes en effet dans une période terrible. Je connais bien Beyrouth, j'y suis allé souvent faire des enseignements, et je peux pas éprouver, ne pas éprouver beaucoup de sympathie pour tous les amis qui sont là-bas aujourd'hui. Et j'imagine que ce n'est peut-être pas le récit dont ils ont le plus besoin aujourd'hui, mais d'aide beaucoup plus matérielle.
Est-ce que, pour terminer, vous êtes professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, histoire critique théorie. Votre dernier cycle de cours avant la retraite a été interrompu par le confinement. Vous allez, je crois, le terminer en janvier. Vous ne vouliez pas délivrer vos cours à distance. Justement, vous qui avez beaucoup enseigné dans beaucoup d'endroits, vous nous disiez, craignez-vous un glissement par la force des choses, vers de plus en plus de virtuels, de cours à distance. C'est la crainte, en tout cas, d'un certain nombre de professeurs à l'université.
Écoutez, oui, moi-même, j'ai beaucoup utilisé durant cette période les moyens virtuels qui permettent de communiquer. J'ai fait un feuilleton qui est affiché sur le site du Collège de France. Mais mes derniers cours au Collège de France, j'avais tout de même envie de les faire devant un public. Bon, il y aura la moitié du public, puisque je pense qu'en janvier encore, dans les amphithéâtres, il y aura seulement une place sur deux et un public qui sera masqué. Peut-être que le professeur aura le droit de ne pas être masqué, mais oui, il est prévu que je fasse ces dernières leçons en janvier. Bon, vous savez, j'enseigne depuis, bon, je crois que ça fait 45 ans d'enseignement, c'est beaucoup. Bon, on a tout de même envie de finir avec quelque chose qui est un peu plus que de la virtualité, avec des auditeurs physique devant soi, mais le séminaire que je ferai pour l'Université Columbia à l'automne sera un séminaire virtuel, fait par des moyens techniques qui sont pas nécessairement les meilleurs pour avoir des échanges comme on doit l'avoir dans un séminaire.
Et en espérant donc que ce soit évidemment temporaire, en tout cas, merci beaucoup Antoine Compagnon, Un été avec Pascal, en coédition Les Équateurs France Inter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Culture ce matin.
Merci beaucoup.